Amis auditeurs, auditrices de Vibration FM, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir Michel Dautry. Michel, bonjour.
Bonjour, c'est une chance pour moi.
Et avec vous, nous allons aborder la suite d'un très très beau projet, le changement de l'orgue du Grand Temple de la rue de Maguelone à Montpellier. Donc vous venez régulièrement sur notre antenne nous tenir au courant de ce magnifique projet. Est-ce que vous pouvez peut-être pour nos auditeurs rappeler qui vous êtes et d'où vous vient cette passion pour l'orgue ?
Alors je suis donc Michel Dautry, je suis le président de l'association des Amis de l'Orgue du Temple de la rue de Maguelone. Cette association a maintenant presque 10 ans d'âge. Et depuis 10 ans à peu près, nous travaillons avec les gens de l'association sur ce projet de grand orgue dans le temple de la rue de Maguelone qui mérite un bel instrument. C'est un très beau lieu dans lequel nous allons... nous prévoyons l'installation d'un orgue de 30 jeux à peu près, d'un orgue classique, mais capable en même temps de jouer la musique du 18e, de Bach en particulier bien sûr, mais également des compositeurs et contemporains.
Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas bien la configuration d'un temple, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi des orgues dans un temple ?
Pourquoi des orgues dans un temple ? Pourquoi des orgues dans une église ? L'orgue, au début, était dans les stades des Grecs et des Romains, un orgue très primitif, bien sûr, et petit à petit, les églises se le sont appropriées. Il est vrai que la réforme, au départ, du moins la réforme calviniste, n'a pas beaucoup apprécié l'orgue, ça a été très difficile. Un réformateur, Zwingli, disait que l'orgue était la cornemuse du diable. C'est dire que les protestants, au départ, n'ont pas beaucoup aimé l'orgue. Mais petit à petit, en particulier au 19e, l'orgue a trouvé sa place dans le temple, dans les temples, dans les grands temples, bien sûr. Et dans les grandes villes de France, il y a un orgue à peu près partout, même dans les villages. Je rappelle d'ailleurs qu'au Vigan, qui est une petite ville de 4000 habitants, nous avons un orgue magnifique qui a été construit par Claude Berger, qui est un facteur d'orgue remarquable qui habite Clermont-Lérault et qui a construit au Vigan en 2000 un instrument magnifique qui fait le bonheur des auditeurs et également des organistes. Parce qu'il faut que l'orgue soit aussi adapté à l'organiste, pas seulement prévu pour les auditeurs.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'intérêt d'un orgue dans un temple ou dans une église, tout ce qui se joue et qui s'entend du coup au niveau de la sonorité grâce à la question de la sonorisation dans un temple, dans une église?
C'est très important. Pour le projet de Montpellier, on a beaucoup étudié la question de l'acoustique du lieu et l'architecte qui s'appelle Martin Bacot, qui est un architecte DPLG, construit des maisons, mais qui est également grand organiste et également constructeur de buffets d'orgue, a beaucoup réfléchi à la question de l'acoustique et l'orgue, bien sûr, est toujours pensé et conçu en fonction de l'acoustique du lieu qu'il accueille. Ça, c'est très important.
Est-ce que vous diriez aussi, Michel, que l'intérêt d'un orgue, c'est d'être utile lors des cultes, par exemple, ou des messes, si c'est dans une église, mais qu'il y a aussi un autre intérêt plus contemporain, plus laïque, plus social ?
Alors, c'est le grand débat, c'est même pas un débat d'ailleurs, mais enfin la grande discussion qu'on a, le rôle cultuel de l'orgue, évident bien sûr, et le rôle culturel. Les deux, quelquefois, sont opposés. Il faut cesser d'opposer le cultuel et le culturel, parce qu'ils marchent de pair. Et un orgue comme celui qu'on aura au temple de la rue de Maguelone aura bien évidemment un rôle pour les cultes, les cérémonies religieuses, mais il aura aussi un rayonnement, et nous l'avons voulu comme ça, sur le plan culturel, pour donner des concerts, pour avoir la possibilité pour les élèves du conservatoire de venir travailler, pour être inclus dans des cycles d'orgue à Montpellier par exemple, comme on le fait par exemple à Toulouse, c'est très connu, et également pour avoir peut-être aussi sa place dans des festivals de musique.
Donc du coup, ça m'amène à quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a toujours l'impression que l'on classifie les instruments de musique entre ceux qui sont pour les vieux, ceux qui sont pour les jeunes. Et comment vous pourriez décrire que l'orgue a aussi une présence, un actuel, pour les jeunes d'aujourd'hui ?
Écoutez, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire le Vigan. L'orgue du Vigan, je l'ai voulu et j'ai fait en sorte qu'il existe. Et au Vigan, on fait des concerts de jazz à l'orgue. On fait des concerts, je l'ai fait déjà deux fois, on va le refaire cette année, des concerts d'orgue sur des mélodies de Brassens, de Piaf, de Brel en particulier. Alors, bien sûr, l'orgue est un instrument... qui doit descendre de la tribune et qui doit perdre son caractère, autant son caractère un peu solennel, un peu associé aux cérémonies, en particulier funèbres. L'orgue est un instrument comme les autres, il est simplement un peu plus gros, mais il peut donner des interprétations de musique tout à fait populaire, tout à fait moderne, tout à fait contemporaine.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que la musique prend un sens différent selon qu'elle est écoutée au niveau de l'orgue ou d'une batterie ou d'une guitare, etc. Comment on pourrait donner du sens à la musique au travers de ces différents instruments ? Est-ce que l'orgue apporte justement dans l'écoute et dans la plénitude, je pense, de la musique aussi ?
L'orgue apporte une panoplie de sons considérables, du plus aigu au plus grave. Des sonorités tout à fait spéciales, tout à fait originales, et aussi une puissance. L'orgue peut jouer très très doux, avec des jeux de bourdon, des jeux de flûte qui peuvent être très doux, et l'orgue aussi a des jeux de trompette qui peuvent être très puissants. Donc il y a une variété, une possibilité de variété très considérable dans l'instrument orgue, beaucoup plus que dans tous les autres instruments de musique connus.
Dans ce temple donc de la rue Maglone, qui en 2003 a eu d'importants travaux de rénovation, de restauration, il est donc important de prévoir un orgue digne de ce nom dans ce bâtiment maintenant.
Et bien sûr, il y a longtemps, très longtemps, que je dis à mes amis montpellierains, on ne peut pas se contenter de l'orgue actuel qui est en très mauvais état, tout le monde le sait, il a été expertisé par un technicien de l'État et il est trop abîmé pour être réparable. Et il faut cesser de dire qu'il est réparable. Quelques personnes le disent encore. Non, il n'est plus réparable, il est trop abîmé, en trop mauvais état. Il faut donc le remplacer. Mais le remplacer par quoi ? On pouvait imaginer un petit orgue de 10-15 jeux, neuf, qui aurait été, comme dans beaucoup de temples. L'association dont je suis le président a fait un choix, en accord avec le conseil prébitéral, en accord aussi avec la DRAC, puisque le temple est classé monument historique, entre sur la liste complémentaire, un accord avec tous ces gens-là, pour la construction d'un orgue important. Pas très important, 30 jeux, c'est pas beaucoup. Beaucoup d'orgues ont 50 jeux, 80 jeux, 100 jeux, 110 jeux. À Notre-Dame, il y en a 111, je crois, à Paris. On voit quelquefois des orgues monstrueux de 150 jeux, mais c'est pas mieux. Donc, un orgue de 30 jeux environ, en accord avec le conseil prébitéral, je le répète, est prévu pour le temple de la rue de Maguelone. Il est, je pense, nous pensons tous, et c'est certain, parfaitement adapté au volume architectural du temple, à l'acoustique du temple et à l'usage qui lui est destiné.
Alors ce qui est intéressant dans un orgue, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas cet instrument-là, c'est qu'il y a non seulement tout ce qui est de l'ordre de la tuyauterie, du pédalier, etc., mais il y a aussi un buffet. Et il est prévu que ce buffet fasse preuve d'une esthétique novatrice. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Alors, nous avons fait appel pour le buffet. Le buffet, c'est la boîte qui contient les tuyaux. Ça s'appelle un buffet. Nous avons fait appel à Martin Bacot, un architecte, jeune architecte remarquable, qui s'est fait connaître il y a quelques années par la construction d'orgues tout à fait modernes, contemporains. Et Martin Bacot a eu le souci, et je crois qu'il a parfaitement réussi, de trouver un buffet qui s'adapte à la fois à la forme de la tribune, qui est très particulière parce qu'elle est très étroite, et elle est très étroite et elle est en largeur, et qui s'adapte aussi à la présence des vitraux. Donc c'était très difficile d'arriver à trouver un compromis entre toutes ces contraintes et tout ce qu'on souhaitait faire. Je pense que c'est vraiment l'avis de tous qui voient le projet de Martin Buffet. Je pense que Martin Bacot est arrivé à trouver le meilleur compromis possible entre l'esthétique du buffet, l'acoustique du lieu, la place de l'orgue dans la vie aussi culturelle et cultuelle de ce lieu. Et je pense que le compromis qu'il a réussi à trouver est proche de la perfection.
Très bien. Donc maintenant, nous allons peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nous vous avons invité aujourd'hui tout particulièrement parce que un tel projet d'une telle ampleur et d'une telle nécessité, autant sur le plan culturel que culturel, va nécessiter de l'argent. Mais l'argent, nous savons qu'il existe si nous savons frapper aux bonnes portes. Et nous sommes sûrs que parmi nos auditeurs et auditrices de Vibration FM, il y a de bonnes portes. Qu'auriez-vous à nous dire, Michel, par rapport à ce besoin d'argent ?
Un orgue, on le comprend, c'est cher. C'est composé de tuyaux d'étain, difficiles à mettre en œuvre. C'est un travail de technicien, de facteur d'orgue, très complexe, très compliqué. Un orgue, c'est un instrument très complexe, c'est vrai. Donc, on peut considérer que c'est relativement cher. Mais un Stradivarius, c'est encore beaucoup plus cher, bien sûr. Le projet de l'orgue de Montpellier est estimé à 700 000 euros. Évidemment, c'est beaucoup. Mais ces 700 000 euros, nous les trouverons. Le conseil d'administration de l'association a fait le choix suivant. D'abord, nous avons lancé une campagne par la Fondation du patrimoine qui soutient notre projet parce que certains tuyaux, certains éléments de l'orgue ancien seront inclus dans l'orgue nouveau. Donc la Fondation du patrimoine a accepté de piloter notre projet. Ça, c'est la première façon de trouver des revenus financiers. La deuxième façon, qui est prévue pour l'automne, c'est ce que nous avons décidé, c'est un parrainage de tuyaux. C'est-à-dire que nous allons lancer une campagne très large et chacun pourra parrainer un tuyau en donnant soit 20 euros, soit 30 euros, soit 50 euros, soit 300 euros, soit 3000 euros, soit 20 000. Le parrainage de tuyaux, ça va de peu à beaucoup. À titre d'indication, un seul jeu d'un orgue vaut en moyenne 20 000 euros. Et il y a 30 jeux. Voilà. Donc nous comptons beaucoup sur cette campagne de parrainage de tuyaux qui, quand j'ai fait construire l'orgue du temple du Vigan, a très bien marché. Dans ce petit pays du Vigan où il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a 4000 habitants à peu près, on a trouvé beaucoup d'argent et je pense qu'à Montpellier aussi. Alors cette campagne de parrainage, elle sera très largement diffusée et elle débutera, je pense, en octobre, au mois d'octobre. Elle va durer quelque temps, elle sera diffusée par tous les journaux locaux, y compris par Réforme, et aussi par tous les moyens de communication à notre disposition actuellement.
Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Michel, c'est qu'en fait, l'appel aux dons n'a pas à être réservé à des protestants du sérail, comme on dit, mais comme c'est un orgue et un instrument de musique qui, par sa qualité, va s'adresser à tous, il est important de savoir que, qui que vous soyez, protestant ou non, chrétien ou non, vous pouvez avoir tout à fait accès à ce parrainage et à la qualité de cet orgue par le don que vous pourrez faire.
Absolument. Nous comptons déborder très largement le milieu protestant pour faire appel à tous les mélomanes de toute notre région et bien au-delà d'ailleurs.
Bon. Merci. Nous allons avoir un moment de pause musicale et je vais laisser Michel introduire. Nous allons écouter une litanie de Jehan, J-E-H-A-N, Alain. Et donc, vous allez nous introduire ce merveilleux morceau d'orgue que nous allons écouter.
Alors, les litanies, ça s'appelle les litanies de Jehan Alain. C'est une pièce que j'aime énormément, qui a été jouée, qui a été beaucoup jouée, qui est très connue. Jehan Alain, c'est un compositeur qui est mort à la guerre de 1939, qui était extrêmement brillant, qui aurait pu devenir un des plus grands compositeurs actuels, qui est d'une famille de musiciens, qui était le frère de Marie-Claire Alain, et qui a été un compositeur absolument remarquable. Malheureusement, il est mort très tôt. Et dans cette pièce, appelée Litanie, qui est à la fois très moderne, très contemporaine, on peut entendre toutes les sonorités de l'orgue, tout le côté percutant et très sonore de l'orgue.
Je vous invite donc à écouter avec beaucoup de plaisir cette partition.
Thank you.
continuons notre émission avec notre invité Michel Dautry, avec qui nous parlons du nouvel orgue qui va être construit sur le temple de la rue de Maguelone à Montpellier, près de la gare. Vous venez d'entendre un magnifique morceau litanie écrite par Jehan Alain. Jehan, c'est J-E-H-A-N Alain. Et Michel va nous dire quel était l'organiste qui nous a joué cette merveilleuse litanie.
Alors c'est un enregistrement de référence qui est fait par Marie-Claire Alain, qui a été une très grande organiste, très connue pendant, il y a quelques années, et qui a donné cette pièce toute sa vie, de nombreuses fois, une pièce qu'on joue très souvent et qui est très connue, qui est remarquable, et qui met bien en valeur l'orgue.
Tout à fait, les différents jeux de l'orgue. Nous allons reprendre, nous nous en étions arrêtés après une grande présentation que vous nous aviez faite sur l'intérêt de l'orgue comme instrument de musique, autant dans l'aspect cultuel que culturel, et qui pouvait toucher toutes les générations. Bien sûr, pour avoir un bel orgue, il faut pouvoir avoir de l'argent. Vous nous avez donc dit que le montant des travaux se montait à 700 000 euros. Vous nous avez parlé dans un premier temps du parrainage qui pourra se faire donc chacun pourra parrainer un tuyau de l'orgue. Quelles autres sources de financement vous allez trouver, Michel ?
Je rappelle donc la formation de patrimoine premier temps, deuxième temps parrainage, troisième temps le mécénat. Alors bien sûr, notre association va s'adresser aux mécènes et je pense que le mécénat permettra d'arriver à boucler ce budget. Je rappelle que c'est 700 000 euros, taxes comprises. C'est-à-dire que l'orgue lui-même, hors TVA, coûtera dans les 550 000 à peu près. Alors, comment faire pour trouver les mécènes ? Il faut savoir s'adresser aux mécènes. C'est une technique un peu particulière. Et il faut trouver des entreprises qui ont de l'argent et qui veulent bien participer au financement d'un instrument orgue. Évidemment, le mécénat s'intéresse davantage au social, mais certains mécènes s'intéressent à la culture et certains mécènes s'intéressent à l'orgue. Alors actuellement, nous sommes en train de constituer un dossier très complet avec un conseiller en communication et qui sera adressé à tous les mécènes que nous essaierons de toucher personnellement parce qu'il faut des contacts personnels sinon ça ne marche pas. Voilà, tout le monde y arrive, pourquoi pas nous à Montpellier. Alors nous avons une première réunion le 20 octobre pour présenter ce projet de façon très large, un grand public dans le temple, et nous avons réussi à avoir la présence de Jean-Claude Casadessus. Jean-Claude Casadessus, ce grand chef d'orchestre qui a créé l'Orchestre National de Lille, a accepté d'être président d'honneur du comité de soutien de l'orgue de la rue de Maguelone. Très spontanément, très aimablement, il a accepté d'être président d'honneur. Ce comité de soutien comprend des personnalités locales de tous milieux, de toutes origines, de toutes confessions aussi. Et Jean-Claude Casadessus en est le président d'honneur. Et il a accepté, en tant que président d'honneur, et peut-être aussi par amitié un peu pour ce qui se passe à Montpellier, de venir le 20 octobre. Il sera présent. On est en train d'organiser cette journée. Il y aura vraisemblablement un concert donné par les élèves du conservatoire dans le temple. Enfin, je veux faire de ce moment-là un événement à retentissement médiatique important pour faire connaître le projet de l'orgue et pouvoir aussi après atteindre le mécénat plus facilement. Il faut se faire connaître et nous faisons tout actuellement pour essayer de nous faire connaître du plus grand nombre et pas seulement du milieu protestant local.
Voilà, donc de toute façon, nous vous réinviterons en septembre pour que vous puissiez nous en dire plus sur cette soirée de lancement du 20 octobre. Je pense que pour nos auditeurs, c'est important de savoir, quand vous parlez de mécénat, vous parlez de quoi exactement et qui ça peut concerner ?
C'est très large. C'est très très large. Le problème, c'est d'arriver à trouver des mécènes construction d'un orgue intéresse. Je sais qu'à Paris, par exemple, un orgue que je connais bien dans un temple qui est bien connu, a été financé en partie par un grand mécène qui a des relations avec le monde protestant, qui est peut-être lui-même est protestant, je ne sais pas. Mais nous sommes à la recherche de mécénats de ce type-là, mais pas seulement. Il y a des grands mécènes actuellement en France, et peut-être même aussi à l'étranger, qui financent des projets. Et comme ce projet est quand même, sur le plan esthétique et sur le plan de sa conception générale, très intéressant, très novateur, très nouveau, très original, je pense qu'on trouvera auprès des mécènes l'aide dont nous avons besoin.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant et qui peut donc intéresser nos auditeurs et auditrices, c'est que chacun d'entre vous peut connaître ou avoir dans ses relations plus ou moins proches quelqu'un qui pourrait être mécène aussi. Et vous avez insisté sur la notion de proximité. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'allez pas simplement envoyer un papier ou un dossier, comme vous dites, mais vous allez entrer en contact avec tous ceux, personnels ou mécènes, qui seraient intéressants par ce projet pour pouvoir expliciter un petit peu l'intérêt de ce projet.
Absolument. Il y a de grands mécènes, bien sûr, qui peuvent donner des grosses sommes. Il y a des petits mécènes. Et surtout, chacun de nous a un réseau. Chacun de nous a des amis, des parents. Et dans cet éventail de relations que nous avons chacun, professionnelles, personnelles, familiales, de voisinage, d'intérêts aussi sur le plan musical ou autre, et sur le plan culturel en particulier, chacun de nous peut trouver autour de lui des particuliers qui peuvent soit participer eux-mêmes, soit trouver des relations qui pourraient elles-mêmes participer.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant pour l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération, c'est que tout un projet, depuis plusieurs années, a été mis en place pour qu'il soit rénové, pour qu'il soit mis en adéquation, que ce soit avec les normes de sécurité, que ce soit avec l'environnement de la ville de Montpellier. Lors des journées du patrimoine, ce temple est aussi ouvert. Et il serait vraiment dommage qu'un ancien orgue qui, en plus, ne fonctionne plus et présente même des dangers, puisque je crois qu'il y a des éléments de risque au niveau du buffet qui tombe, etc. Donc, il faudrait effectivement que ce temple, qui est en pleine rénovation, puisse avoir un orgue digne de ce bâtiment, puisque ce qui est important dans les bâtiments, c'est effectivement qu'ils puissent suivre l'évolution des temps et servir à nouveau. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aussi par rapport à tout ce que ça peut apporter, que ce soit pour la communauté protestante, que ce soit pour la ville de Montpellier, que ce soit pour l'enrichissement culturel aussi. Allez-y, Michel.
D'abord, je vais rectifier un petit détail. Ah. L'orgue actuel fonctionne.
Oui.
C'est un peu compliqué de le faire jouer, mais ouais, il fonctionne quand même. Il accompagne les chants, il accompagne les services religieux, et il n'est quand même pas dangereux pour le public. Voilà. Évidemment, notre souci, c'est de faire un orgue qui convienne pour le service du culte protestant, bien sûr, mais notre souci, c'est de faire un orgue pour la cité. C'est partie des leitmotifs de notre communication, un orgue pour la ville de Montpellier, pour la cité de Montpellier et sa région. Donc un orgue qui manque à Montpellier, il y a quelques orgues à Montpellier qui sont tout à fait intéressants, mais cet orgue aura sa personnalité, sa particularité, et nous souhaitons qu'il s'inscrive très profondément dans la vie culturelle locale et même régionale.
Très bien. Donc, je vais vous donner, au niveau auditeur-auditrice, le site sur lequel vous avez plein d'informations. Donc, c'est le site AOTM en minuscule .fr sur lequel vous avez plein d'informations. Je crois qu'il est important aussi de dire que le don entraîne un reçu fiscal et que ce reçu fiscal entraîne une réduction d'impôt.
Oui. Quand vous donnez 100, en fait, vous payez 30, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est tout à fait déductible des impôts.
Voilà, donc n'hésitez pas. Ce qui est important de vous dire aussi, c'est que si, et je pense que oui, vous aurez envie de faire un chèque de soutien, il faut libeller votre chèque à l'ordre de la Fondation du patrimoine, orgue du Grand Temple.
Oui, ou bien directement siège social de l'association qui est 25 rue de Maguelone à Montpellier, c'est-à-dire l'adresse du Temple de Montpellier.
Voilà, mais toutes ces informations sont sur le site, je répète l'adresse du site, en minuscule aotm.fr. Michel Dautry, merci beaucoup et à bientôt puisque nous vous reverrons.
Merci à vous et au mois de septembre.
Et merci à Stéphane qui était à la régie. À samedi prochain.